Préparation au mariage, session de février-mars 2018. Le mariage dans la foi au Christ Sauveur. En demandant la bénédiction de Dieu pour leur mariage à l'Église catholique, les deux fiancés, même si l'un d'eux a des doutes sur la foi, ou s'il est baptisé mais non catholique, orthodoxe, protestant, ou s'il est d'une autre religion, juif, musulman, hindou, bouddhiste, ou sans religion, agnostique ou athée. Agnostique, c'est celui qui dit peut-être que Dieu existe, mais j'en suis pas sûr du tout, je ne sais pas. Athée, c'est je suis certain que Dieu n'existe pas. Et c'est très rare, j'en ai eu un. Et une personne vraiment, mais vraiment profondément athée, mais très paisible, pas agressive particulièrement, mais considérant que tout se fait par hasard, qu'on a les yeux en face des trous, par hasard, ce qui est quand même en soi pratique. Si on les avait eus au niveau des oreilles, ça aurait été difficile. Et donc, sans religion, et qui viennent auprès du Créateur. Tout d'abord, la religion fondamentale, c'est qu'on a été créé par un être intelligent. Parce qu'il y a des personnes qui croient en un Dieu créateur, mais qui ne croient pas en la paternité de Dieu, en un amour paternel de Dieu. Bien au contraire, ils pensent que Dieu est assez agressif et jaloux dans une véritable dureté. Et aime même à voir mourir ses créatures, d'une manière assez cruelle. Donc on ne peut pas dire que ce soit un père dans ces cas-là, dans ces religions-là. Mais ici, c'est créateur, père qui aime ses enfants. Donc il est bon alors de se rappeler qui est notre père et qui a envoyé son fils. On va se rappeler de ce que du terme même de la Trinité, de la vie trinitaire. Que Dieu est un fils, il va falloir mieux le comprendre parce que vous verrez que c'est lié au mariage. Jésus-Christ naît de la Vierge Marie. En effet, même si des fiancés ont reçu une transmission des beautés de la foi chrétienne, c'est parfois un peu lointain, et la baisse actuelle de la présence à la messe dominicale atténue quelque peu la prière habituelle dans la présence du Dieu Sauveur qui partage nos vies. Vous voyez, si vous avez perdu l'habitude, ou si vous avez eu une famille où vous avez peu prié en famille, ou si vous êtes allé très peu à la messe le dimanche, voyez, tout cela, il y aura des rappels, mais si vous-même vous êtes pratiquant et si vous avez de votre catéchisme à maintenant une vie particulièrement, soutenue dans la prière, eh bien vous serez patient et peut-être que vous découvrirez certaines choses. Parfois même, certains fiancés n'ont pas fait leur première communion, reçu Jésus dans la Sainte Hostie. Et ne connaissent pas ce trésor tout en étant prêts à l'apprendre. Également, la confirmation dans l'Esprit Saint, amour du Père et du Fils, pourtant demandé ordinairement pour le mariage, est parfois absente. Donc voyez-vous, parmi vous, il y en a qui ne sont pas confirmés, et donc, d'ailleurs, on pourra en parler. Mais il ne faut pas se demander la confirmation avec précipitation, il vaut mieux que ça soit vraiment une grâce particulière de Dieu qu'on reçoit consciemment plutôt que de dire « Ah, on va se marier, donc on va nécessairement être confirmé. Comment ça se passe? À quel guichet nous allons pour avoir le papier ?» La préparation au mariage n'est donc pas seulement l'occasion d'un enseignement sur la promesse de vie commune, sur les joies et les enrichissements mutuels, comme sur les difficultés. Des conseillers conjugaux expérimentés peuvent en parler avec sagesse. Et une préparation de mariage religieux, c'est pas de la psychologie. Et c'est d'abord de la foi, de l'espérance et de la charité, avec, nous l'espérons, de la psychologie. Mais, si vous voulez, pour des analyses psychologiques très pointues, il y a des personnes qui en font profession. Et d'ailleurs, lors d'une des séances, il y a une psychologue catholique qui va venir avec son époux pour vous parler de la vie commune. À sa façon. L'engagement dans la foi, en présence et sous le regard quotidien du Père, est particulier. Ainsi, les fiancés sont invités à trouver des temps de prière dans leur vie de couple. Ils s'engageront à recevoir leur futur enfant dans la bonne nouvelle du baptême et de la connaissance du Sauveur Jésus dans le catéchisme de l'enfance. Si vous voulez, si vous venez ici, on ne sait pas pourquoi, sans lien avec la prière ou la foi, il vaut mieux ne pas se marier à l'église. Parce que se marier devant Dieu en qui on croit, c'est du coup éduquer les enfants qu'on va avoir dans la foi. Si vous pensez avoir que c'est un rite français de se marier à l'église, il y en a de moins en moins qui le pensent, mais si, c'est le baptême des enfants qui est, et le catéchisme des enfants qui est aussi dans le mariage chrétien. Et c'est un engagement, c'est une promesse, hein, c'est pas. C'est-à-dire que un couple qui se marie devant Dieu dans la foi chrétienne et qui ne font pas baptiser leurs enfants, ou qui les font baptiser mais ne leur donnent pas le catéchisme, sont parjures. Oui, ils sont infidèles à leurs promesses. Donc, à bon entendeur, salut. Je vous ai dit, j'ai une manière de parler qui est un peu ancienne. Oui. Mais je trouve des mots d'une nouvelle langue, hein, mais pas toujours. Alors, si l'un des fiancés n'est pas catholique, en acceptant d'accompagner son futur conjoint, il est conscient de son engagement de faire son possible pour transmettre sa foi de celui qui est catholique. Mais n'ayez pas peur, ce seront des évocations rapides, c'est ça, qui, si elles sont bien connues de certains, qui attendent un enseignement sur le mariage, ne seront pas trop longues. Elles occuperont des moments du premier dimanche et des six rencontres. C'est la raison pour laquelle nous commencerons cette préparation par une méditation sur de la puissance et de la beauté du Créateur, des purs esprits, les anges, et de la nature humaine, corps et âme. Ah. Toc. Oui. Le récit de la Genèse nous inspirera pour atteindre à l'intention de Dieu qui donne vie à l'homme et à la femme. Dans une seconde partie, nous verrons dans l'histoire religieuse de l'humanité, dans l'histoire sainte du peuple juif, les promesses et les messages du Père pour donner toujours l'espérance du bonheur et du salut dans la venue du Sauveur Jésus-Christ. La naissance du Christ au sein de la Sainte Famille de la Vierge Marie et du Père adoptif Saint Joseph est l'occasion de recevoir la nouvelle de l'incarnation du Dieu qui se fait homme, image du mariage entre Dieu et l'humanité. Vous voyez, il y a un mariage dans l'incarnation. Vous voyez, la nature divine et la nature humaine s'unissent. Donc c'est pour ça que le mariage terrestre, naturel, a un sens particulier. Et c'est pas anodin que Dieu ait voulu sanctifier le mariage. Par la croix, oula, décidément, et la résurrection, l'agneau de Dieu, l'époux annoncé par Saint Jean-Baptiste, va accomplir le mystère du passage de la mer Rouge en la nuit pascale. Il offre sa vie pour nous donner la vie éternelle. La séance 3 développera les principes fondamentaux de la relation d'amour de l'homme et de la femme, à l'image de l'amour du Christ pour l'humanité. L'engagement n'est pas forcé mais libre, une alliance. Il est un choix en conscience, première connaissance des qualités et des défauts. Il est dans la fidélité et l'unité. La séance 4 abordera le projet de vie, vie quotidienne, vie professionnelle, fécondité et accueil des enfants. La séance 5 se concentrera sur la grâce qui accompagne le mariage, sacré ou sacramentel, l'invitation à la conscience de la présence de Dieu et son aide. L'importance du sacrement de confirmation sera présentée. Enfin, lors de la séance 6, nous accueillerons le témoignage de Sophie Martin Grzybowski, accompagnée de son époux, conseillère conjugale et familiale, au clair, et qui est maintenant à la retraite, mais qui continue à faire ses conférences. Nous terminerons nos rencontres par un repas convivial pour faire le bilan et vous inviter à faire une retraite spirituelle de zèle, c'est beaucoup mieux. Et ça fait longtemps que je n'avais pas relu ça. Première séance. Existence de Dieu, Créateur et Père. Dieu est un esprit éternel, l'intelligence, la volonté et l'artiste est Dieu. Alors, qui est Dieu? Dieu est un esprit. Vous voyez, c'est pas très romantique. C'est une définition très basique. Dieu est un esprit, mais c'est très important. Qu'est-ce qu'un esprit? Un esprit est un être sans matière. Voilà. C'est fini. Donc, Dieu est un esprit, c'est-à-dire un être sans matière. C'est une pure intelligence et une pure volonté. Quelle est la particularité de Dieu? C'est qu'on a son intelligence conçoit tout ce qui est en une seule pensée. Et sa volonté est unique et pénétrante. Il est l'être. C'est-à-dire que c'est lui qui existe et il est éternel. C'est un esprit qui a toujours existé et qui est tout puissant. Il n'y a pas un moment où Dieu n'existait pas, où il y avait une sorte de chaos informe, car Dieu a toujours existé. Alors pour nous, c'est très difficile à concevoir qu'un être n'ait pas eu de commencement. Mais il est l'être lui-même. Quand Moïse demande à Dieu son nom pour aller parler au peuple en tant que prophète envoyé de Dieu, Dieu lui dit, eh bien tu diras que je suis t'envoie. Yahvé en hébreu, ça veut dire je suis. Vous voyez, c'est la première personne du présent de l'indicatif. C'est un être éternel. Tout vient de lui. Et dans sa vie intérieure, Dieu se pense. Il se connaît. Et il s'exprime d'une seule et unique pensée. Quand vous voulez exprimer votre pensée, vous parlez. Mais vous pouvez aussi simplement penser. Quand vous avez les outils d'un langage, ça aide. Mais en soi, même un bébé pense. Quand un bébé a peur, quand un bébé pleure, il ne connaît pas forcément le français, ou l'anglais, ou l'hindi, ou tout ce que vous voulez, mais il pense. Il est rassuré, ses yeux se forment petit à petit, ils ne sont pas tout à fait formés. Quand il sort du ventre de la mère, il voit flou, mais assez vite, il voit net, et les premiers visages et les premiers sons sont ceux, normalement, de ses parents. Et il va se souvenir de ce qu'il voit et qu'il entend le plus souvent. Et ça va se graver dans sa mémoire. Eh bien, Dieu, lui, comme il a tout potentiel d'être, d'intelligence, quelle est la langue de Dieu, hein? Dans quelle langue Dieu se pense? Il est l'être. Hein? Mais voyez-vous, à notre image, Dieu se dit à lui-même. Eh bien, on appelle la parole de Dieu qu'il se dit à lui-même le verbe. Et on utilise en français le terme verbe pour le mot qui exprime l'action dans la phrase. Et qui peut même inclure le sujet. Dans certaines langues, le sujet est dans le verbe, par la terminaison du verbe. Nous, on exprime toujours le pronom personnel en français. Mais le verbe, c'est ce qui, dans la phrase, exprime l'action. Le sujet qui agit. Ensuite, vous avez des compléments. Vous voyez, mais je bois de l'eau. Qui boit? Moi. Et qu'est-ce que je bois? De l'eau. Et alors, qu'est-ce que pense Dieu? Quelle est sa parole éternelle? Je suis. je suis l'être, je suis la vie, je suis la beauté, je suis la puissance. Voyez, pourquoi les hommes admirent Dieu ou ont peur de Dieu? Mais parce que c'est, ils ont raison. Jésus dit un jour, ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer, parce qu'ils ne peuvent tuer que le corps. Craignez celui qui peut, après avoir tué le corps, peut perdre l'âme. C'est-à-dire permettre à une âme d'aller jusqu'au bout de sa haine et lui donner un lieu de haine qu'est l'enfer. Et ça, craignez-le. Parce qu'en soi, voyez-vous, à un moment donné, Dieu nous laisse avec notre liberté de haïr. Il va être patient, il va nous pardonner, mais à un moment donné, notre liberté va se figer dans la haine. À nous de ne pas vouloir se figer dans la haine. Parce que, par contre, lui, Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'au bien, Dieu. Sa pensée éternelle, son verbe, il l'appelle d'ailleurs son fils. C'est comme s'il se voyait dans un miroir. Vous savez que dans un miroir, on se voit. Pour se voir sans miroir, il faudrait... son visage, ça va être très difficile. Hein, mais on peut se fléchir pour se regarder soi-même. Là, on regardera son nombril ou ses pieds ou ses genoux, n'est-ce pas? Mais réfléchir, c'est tourner notre attention vers nous-mêmes. Dieu, lui, lorsqu'il se pense, voyez, il se réfléchit. Eh bien, saint Paul, qui est un apôtre de Dieu, nous dit que la parole éternelle de Dieu est le miroir de sa substance, de son être profond. Le miroir. Alors vous allez me dire, Dieu est narcissique. Il se regarde dans un miroir. Mais non, on ne peut pas s'empêcher de se connaître. Voyez, Dieu se connaît. Et c'est pas par narcissisme, il se connaît. Et quand il se connaît, quand il se voit, il voit quoi? L'être, la vie, la beauté, l'amour, une source incroyable de création possible. Et qu'est-ce qui jaillit de cette pensée éternelle de Dieu? À nouveau, vous allez me dire, c'est narcissique? Un amour éternel. En Dieu, cet amour immédiat, éternel, sans début et sans fin, s'appelle l'Esprit Saint. Dieu se pense et Dieu s'aime lui-même. Mais ce n'est pas un amour égoïste, c'est un amour de constat. Il est aimable, il est beau, il est bon, il est puissant, et il le sait, et il l'exprime. Et donc, de toute éternité, Dieu se connaît et s'aime sans égoïsme, sans orgueil, sans narcissisme. Et donc, il n'y a pas trois dieux, c'est Dieu, l'être même, qui se pense et qui aime. Il n'y a pas trois dieux. Mais ces trois relations en Dieu, d'être qui se pense, d'être qui s'aime, s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On dit aussi du Père qu'il est l'ancien des jours, en sens qu'il est éternel. On représente parfois le Père comme un vieillard avec une longue barbe blanche. Tandis que le Fils lui ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf qu'il a une barbe marron. Et le Saint-Esprit, parce qu'il s'est manifesté dans l'histoire humaine sous l'apparence de l'oiseau pacifique qui est la colombe, on le représente sous la forme d'une colombe. Mais quand l'Esprit Saint s'est manifesté, il s'est manifesté aussi sous la forme de vent, d'un grand souffle ou de flamme. Et on ne représente pas vraiment l'Esprit Saint. Une colombe, c'est quand même loin de Dieu. Tandis que par anthropomorphisme, représenter le Père comme un vieillard, c'est plus facile. Mais c'est faux. En fait, c'est l'éternité qu'on voudrait représenter. Mais l'éternité, c'est pas la vieillesse. L'éternité, c'est l'être. C'est la source de toute vie. Donc il est éternel, il a pas de temps, il n'a pas d'âge, Dieu. Eh bien, cette puissance divine impressionnante, eh bien, la preuve même qu'il n'est pas narcissique, c'est qu'il a créé. Mais figurez-vous, quels sont les premiers êtres qu'il a créés, figurez-vous ? Mais d'autres esprits, avant la matière. Avant le Big Bang, qui est une théorie d'ailleurs proposée par un prêtre, je crois, par un jésuite. Ou pas par un, je sais plus, enfin c'est un prêtre qui a proposé une création d'une masse atomique, une masse de matière énorme, qui se diffuse et qui se spécifie. Bon, pourquoi pas. Mais avant même toute matière, et vous savez que la matière, ce sont des relations d'énergie entre le noyau, les protons, c'est de l'énergie, entre les réactions, les associations de, comment dire, qui font un atome de fer, un atome de magnésium, et les 108 ou 110 éléments primaires, par rapport à des éléments qui sont très, comment dire, qui ont des existences seulement dans des explosions nucléaires, mais les éléments stables comme le chlore, le sodium, comme l'hydrogène, l'oxygène, tout ça, ce sont des atomes, comme disent les anciens, vous voyez, les particules qu'on ne peut plus couper, qui ne sont plus sécables, atomes, qui ne peuvent plus être coupés. Eh bien, c'est matériel, ce n'est pas vivant, c'est inerte. Et Dieu, avant la matière, va créer des intelligences, mais qui ne sont pas toutes puissantes et éternelles. Ce qu'on appelle les anges. Angelus, ça veut dire envoyé. Mais en soi, un ange, c'est un esprit qui peut comprendre et aimer ce qui se passe. Bien, dès qu'ils sont créés, et combien d'anges ont été créés à votre avis ? Des myriades. Et qu'est-ce que veut dire myriade ? Milliards de milliards. Depuis que l'homme est homme, depuis qu'on peut discerner les rites funéraires et les outils, et qu'on peut dire que cet animal a une âme immortelle en lui, qui exprime par la peinture, par l'outil et par les rites funéraires. Eh bien, il y a eu 110 milliards d'hommes environ. On estime d'ailleurs, les plus honnêtes anthropologues disent que c'est entre 10 000 et 20 000 ans avant Jésus-Christ, l'apparition de l'outil. Donc des êtres intelligents, qui peuvent imaginer ce que l'outil va faire. L'animal, lui, il est dans l'instinct, il est dans le présent, nous le verrons. Mais l'esprit, lui, il comprend les causes. Et non seulement il les comprend, mais du coup il comprend des effets. Et donc il peut faire des outils. Et le castor, je ne sais plus, ou la loutre prend une pierre pour casser des coquillages, c'est pas un outil, c'est un constat. Nous, quand on fait un tournevis, c'est parce qu'on conçoit une pièce de métal avec une vrille pour la rentrer dans une matière et pour faire tenir une autre matière à cette matière-là. Donc on imagine, on est en dehors du constat d'une pierre qui casse, de l'aigle qui prend une tortue et qui la jette contre une pierre. Vous voyez ? Il s'envole et il lâche la tortue de si haut que la carapace se brise et il peut manger la partie molle de la tortue. Mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est du constat. L'intelligence, c'est interlegere, c'est lire à l'intérieur des choses. Eh bien, les anges, eux, s'ils ne sont pas éternels comme Dieu, et s'ils ne sont pas parfaits comme Dieu, s'ils ne sont pas tout-puissants comme Dieu, ils comprennent les causes. Et la première chose qu'ils voient, sans avoir des yeux en chair d'ailleurs, c'est eux-mêmes et les autres anges. Vous avez 9 natures angéliques différentes. Les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les cieux, les vertus, les archanges et les anges. 9 cœurs d'anges, 9 natures angéliques. Et encore, chaque ange est particulier. Les séraphins, eux, ont une connaissance de Dieu très fine à leur création. Ils scrutent la nature divine et ils en parlent aux autres. Ils illuminent les autres de ce qu'ils savent, de ce qu'ils perçoivent. Parmi ces séraphins, il y avait Lucifer. On est au matin de la création, on est au début de la création. Lucifer est un séraphin qui est extraordinairement riche de connaissances que Dieu lui a données. Il a ce qu'on appelle la science matutinale, le matin. Il est tellement brillant qu'on l'appelle le porteur de la lumière de l'intelligence. Lucis ferre. Il est appelé à nourrir ses frères anges de cette connaissance que Dieu lui a transmise. Ensuite, vous avez les chérubins qui brûlent d'amour de Dieu. Vous avez ensuite ces anges qui vont présider à l'organisation de la création de la matière. Les anges étaient tellement heureux de se contempler, de contempler ce qu'ils pouvaient voir de Dieu, et de se contempler eux-mêmes dans leur nature angélique si belle, que cela leur aurait vraiment suffi. Mais Dieu a voulu créer la matière. Et pour eux, c'est comme du mécano ou des Lego. Vous voyez ? Bon, c'est quand même bien plus compliqué et donc ça attire quand même l'intelligence angélique. Quand Dieu crée tous les éléments, toute cette matière, toutes ces étoiles, je crois qu'il y a 200 milliards de galaxies dans le cosmos. Et que chaque galaxie contient plus de 100 milliards d'étoiles et d'étoiles explosées de planètes. Donc, Dieu s'est amusé. Et encore, c'est ce qu'on voit avec un télescope. Hein. Mais il a créé une fantastique quantité de matière. Et avec des explosions permanentes, ou des planètes gazeuses, comme nous dans un système solaire, on a que combien ? 9, 11 planètes ? Je ne sais plus. On en a découvert une petite. Et Neptune, c'est une gazeuse. Vous avez une quantité d'ammoniac absolument incroyable. Si Ajax pouvait acheter Neptune, il serait les rois du pétrole. C'est le cas de le dire, mais c'est pas du pétrole. Vous avez Saturne, qui est une planète, qui a un satellite, qui est pas comme la Lune, qui est une planète gelée, dont le cœur est ardent, mais dont la surface était en H2O. Et régulièrement, il y a des volcans qui explosent et qui brisent toute la carapace de cette petite planète, de cette petite lune de Saturne, et qui à chaque fois crache des quantités invraisemblables de glace, oui. Grosse comme des blocs qui font 10 km cubes, oui. Et c'est craché. Et par la loi de la gravité, c'est pris dans la gravitation de Saturne. Et c'est grâce à des satellites que l'on a pu voir que la ceinture de Saturne n'est pas faite de pierre, mais de glace. Et c'est la raison pour laquelle on voit les anneaux de Saturne. Parce que ce sont des miroirs. Et qu'ils, comme des diamants, reflètent la lumière stellaire. Ce sont des morceaux de glace qui tourne autour de Saturne. Alors c'est, vous savez, vous avez des gens qui admirent ça, qui passent leur vie à ça. Imaginez les anges, eux, ils admirent tout le reste de l'univers. Mais je peux vous assurer que pour eux, c'est un jeu. Ce qui est plus intéressant, c'est les relations qu'ils ont entre eux. Car les anges se parlent entre eux, ils ont une vie entre eux. Et à la création des anges, ils ne voient pas l'essence divine. Ils ne sont pas dans la lumière divine. Ils sont simplement dans la lumière de la compréhension de la création divine, de leur propre être et de l'être des choses qu'ils voient. Déjà, ça leur suffit pour être admiratifs. Mais Dieu ne leur a pas encore montré ce qu'il peut, ce qu'il veut montrer de son être, et qui alors remplit l'intelligence d'une manière extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Et les anges ne l'ont pas encore. Et voilà que Dieu leur montre ce qu'il veut faire. Il leur montre la matière. Et Dieu a pu créer de la vie ailleurs que sur terre. Mais nous ne connaissons que la vie sur terre.